Le dollar US est tout proche de faire un choix technique décisif sur le marché des changes. Point complet sur les fondamentaux immédiats pour la tendance du dollar US sur le marché des changes. Je vous décris donc les deux hypothèses techniques immédiates pour le dollar US qui, selon moi, va faire son choix très prochainement. Et enfin, je vous donne mon scénario technique favori sur le cours de l'euro dollar ainsi que quelques stratégies techniques bien timées sur le forex et les matières premières. Et ça, c'est en fin de vidéo. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 21 février 2024. Le dollar américain, oui, est à la croisée des chemins sur le plan technique. J'aime cette expression, mais j'aime l'utiliser à bon escient. Et en tout cas, avec un bon timing. Et vous l'avez sûrement remarqué si vous vous intéressez au marché d'échange et au dollar US. Celui qu'on appelle le DXY, vous savez, la tendance du dollar américain face à un panier de devises, qui est inversement corrélée au pair majeur en dollars. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, le DXY est en hausse, le dollar américain face à un panier de devises, le code c'est DXY, sur TradingView par exemple, mais c'est son code dans les grandes salles de marché, c'est son code officiel. Bon. Et donc, l'euro-dollar a reculé, le GBP-USD a reculé, la UD-USD a reculé, l'USD-Yen a monté. D'ailleurs, j'en redis un mot sur l'USD-Yen dans la troisième partie de cette vidéo. Là aussi, c'est à la croisée des chemins techniques. Bon, le dollar. Donc, la semaine dernière, le dollar est en hausse depuis le début de l'année. Du fait d'un report dans le temps, des anticipations de pivot de la Fed, eu égard à la résilience de l'économie américaine et à une inflation US qui certes baisse, mais qui, selon uniquement le CPI, baisserait moins vite que prévu. Et la semaine dernière, quelques statistiques américaines que l'on appelle des hard data. Hard, costaud. Pourquoi ? Les hard data, c'est pas du vent. Vous savez, je vous parle souvent des indices PMI, pour Purchasing Manager Index. D'ailleurs, cette semaine, ils sont mis à jour. Ce sont des indicateurs avancés, oui, très respectables et donc respectés par la haute finance. Vous avez aussi cette semaine les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi, à ne pas confondre avec une décision de politique monétaire. Bon, eh bien, alors que les PMI américains restent costauds, il s'avère que la semaine dernière sont venus jeter le trouble deux chiffres. Les ventes au détail aux États-Unis, c'est le baromètre ultime de la consommation des ménages qui, je vous rappelle, représente 70% du PIB américain, et la production industrielle, là, on est sur du concret, on est sur du tangible, qu'est-ce que tu as produit ? Voilà, ce qui est matériel. La production industrielle, c'est matériel. Non, c'est pas du code informatique, que sais-je encore, des services du vent, du blanc. Enfin, c'est pas du blanc, du vent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces deux chiffres ont en même temps déchu. Et en rythme annuel, frôle avec le zéro. Et donc voilà qui a entraîné une petite consolidation du dollar américain, un petit rebond de l'euro-dollar, petit, parce que l'on se dit finalement ce scénario du soft landing, c'est-à-dire une économie américaine qui, certes, décélère, mais qui reste largement positive, serait-il mise en danger ? Alors, il s'avère que en réalité, ces hard data de janvier, que je vais vous montrer dans un instant, sont mauvaises. Cela serait dû aux tempêtes de neige qui ont bloqué une grande partie du territoire américain en janvier. Bon, on verra. Nous verrons bien. Ces statistiques sont mises à jour chaque mois. Alors, donc, je vais maintenant passer directement au vif du sujet. Je réclame l'ouverture du rideau. J'exige que le rideau s'ouvre pour que vous, messieurs, dames, puissiez assister à cette nouvelle pièce de théâtre, qui certes n'est pas une pièce de théâtre classique, je vous l'accorde, mais bon, il faut savoir varier les plaisirs. Voilà, donc le plan est sous vos yeux. Donc, quatre parties. La première partie, très rapide, je ne vais pas vous embêter, rassurez-vous. Je pense que dans le Top Gun de lundi, je vous ai largement ennuyé avec le blabla fondamental, donc là, il sera court. Deuxième partie, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Le DXY est proche d'un choix technique décisif. Oui, j'estime que là, autour des 105 points, c'est la traduction de cette zone des 1,05-1,06 de l'euro-dollar. C'est The turning point, c'est the big picture technical point. Et on est dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les hypothèses fractales? Troisième partie, du coup, du dollar US, je passerai à l'euro dollar. Et enfin, j'ai des stratégies à vous proposer sur JPY-USD, XPD-USD, XPT-USD et le gaz naturel. Donc c'est parti, nous attaquons directement par ce par quoi chaque présentation commence, c'est-à-dire une première partie. Et là, je viens de développer l'introduction et donc suis la première partie. Alors, comme d'habitude, à droite des illustrations, je retire la petite caméra, et à gauche des petites lignes de texte. Voilà. Alors, le dollar américain est en hausse depuis le début de l'année sur le Forex, ce qui a créé de la baisse sur les paires majeures en USD. Baisse du taux euro-dollar par exemple, du fait de la corrélation inversée entre le DXY et les paires majeures en dollars. De quoi s'agit-il? Écoutez, je m'explique. Vous avez sous les yeux, du coup, la performance des devises majeures du marché des changes depuis le début de l'année. Donc lorsque vous êtes sur TradingView et que vous avez donc comparé, ici ce sont les codes des monnaies, d'accord? Donc dollar américain, livre britannique, dollar canadien, euro, dollar néo-zélandais, dollar australien, notre ami le franc suisse et le bon petit yen qui j'espère un jour se réveillera car c'est quand même ma stratégie d'achat. Donc ça commence mal mais j'y croise encore, j'y reviendrai. Et donc en year to date. Donc le dollar c'est le patron. Mais depuis le début de l'année. L'année n'a pas commencé depuis très longtemps. Et donc, en gros, voilà, l'année a commencé là. Donc là, vous avez le DXY. Voilà, oh là là, je vous sens perdu. Rassurez-vous, j'en viens, j'arrive à l'explication de toutes ces hypothèses techniques qui partent dans tous les sens. Mais vous allez voir, il y a une trame de fond. Donc le dollar, depuis le début d'année, est passé de là à là. Et il arrive, il est désormais en contact de cette zone des 104,70, 105,70, qui vont déterminer ce que le dollar fera. Jusqu'au début du printemps, ou pas loin, entre soit une vague B qui n'est pas terminée, toujours en construction, soit une vague B en fait qui est déjà terminée, et nous serions dans la vague 2 de la grande C, nous serions déjà en train de construire la C. Donc, le choix va être fait en fonction du comportement des prix vis-à-vis de cette zone, qui a toujours été une zone tampon. Tampon, je franchis, j'accélère, je réintègre, je décroche, et on est dessus encore. Donc, on va parler de tout ça. Alors, le rebond du DXY a été porté depuis le début de l'année par un certain nombre de, par des indicateurs meilleurs que prévu. J'en ai souvent parlé, mais le marché se focalise surtout sur les indices PMI. Donc, vous avez notamment celui de l'ISM dans le secteur des services qui a rebondi ici aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette semaine, celui de Markit est mis à jour. Bon, vous avez bien sûr aussi l'inflation résiliente. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans le Top Gun de ce lundi. Je vous invite à vous tourner à nouveau vers cette vidéo si elle vous intéresse, en vous expliquant que voilà, selon le CPI, même si moi ça ne m'inquiète pas, même si, encore une fois, à mon humble avis, si l'inflation pour moi est vaincue, mais c'est qu'une histoire de temps, il s'avère que oui, le CPI est beaucoup trop élevé. Il est encore à 3,9 en version sous-jacente. Donc ça, ce sont des choses qui ont soutenu le dollar américain depuis le début de l'année. Mais la semaine dernière, il s'est passé quelque chose. Alors, ce qu'il s'est passé la semaine dernière, c'est ce que vous avez sous les yeux. Je vous rappelle que moi, lorsque j'étudie la macroéconomie, j'étudie quatre types de données. Ce qu'on appelle les soft data, ce sont souvent des indicateurs avancés, comme les PMI. Vous avez les data transversales, qui sont des données à cheval sur la technique, la macro, les fondamentaux des entreprises. Vous avez des modèles combinatoires, qui viennent combiner plusieurs hard data, soft data et data transversale. Puis vous avez les hard data. Les hard data, on est dans ce qui est le plus tangible, le moins une vue de l'esprit, le moins émotionnel. C'est quoi, combien de voitures j'ai produit, combien d'électricité j'ai produit, voilà, combien de barils de pétrole, combien de téléphones portables, combien de frigos. Des hard data. Bon. Eh bien, ces hard data, deux sont plus importantes que les autres. Les ventes au détail, qui représente les ventes au détail, c'est le baromètre de la consommation des ménages, et la production industrielle. Et bien la semaine dernière, en rythme annuel, pour ces deux données, regardez les courbes, je vous les remontre, alors qu'on pensait que ça repartait, c'est retombé à zéro pour la production industrielle, et alors là, le choc pour
le taux de croissance des ventes au détail qui passe de 5 à 0,65. Là, ça représente un choc. Alors, c'est ce qui a fait un petit peu, mais marginalement, retracer le dollar américain la semaine dernière. Alors, la question, le soft landing US est-il menacé? Alors justement, attention, non, puisqu'il s'avère en fait que lorsqu'on étudie en détail, par exemple, les chiffres des ventes au détail qui sont tombés en janvier, où effectivement on voit beaucoup de rouge, et donc ce qui explique que le chiffre est retombé à ce niveau-là au rythme annuel, à ce qui est sous zéro, c'est chaud, c'est la récession. Bon, mais il s'avère que ce serait lié à l'hiver, aux tempêtes de neige, à l'activité, aux routes, aux transports logistiques, les consommateurs, tout le monde était bloqué. Bon, voilà. On verra. C'est en tout cas ce qui a été avancé par les économistes. À suivre, on verra la mise à jour de février. Bon, cette semaine, soyez attentifs avec la mise à jour des indices PMI et les minutes du FOMC qui vont permettre d'en savoir davantage. Et enfin, le soft landing est-il menacé? Parce que si le soft landing est menacé, cela serait baissier pour le dollar américain. Mais non, clairement, au stade actuel, on ne peut pas dire que c'est menacé. Je vous rappelle que l'ultime, le juge de paix de l'état macroéconomique et des États-Unis, et là, ça y est, j'en suis déjà à 11 minutes de fondamentaux, alors que je ne voulais pas, mais je ne peux pas m'empêcher. Je vous rappelle que c'est le marché du travail, et pour le moment, le marché du travail US, il ne bronche pas, même le nombre de chômeurs est reparti à la baisse. Encore une fois, c'est le taux chômage officiel, c'est le U3, c'est vrai que si on intègre les travailleurs pauvres, les travailleurs à temps partiel, les différentes catégories de chômage, le taux de chômage, lui, ne cesse de monter. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, pour le moment, dans l'exercice que je suis en train de faire, qui consiste à savoir, est-ce que le dollar va franchir ça, et donc continuer de construire une vague B plus haut, ou est-ce qu'il va bloquer à 105 et repartir en fait dans la construction d'une vague C qu'on aurait déjà commencé, pour valider le deuxième scénario qui est le plus baissier, il va falloir de la mauvaise data macro. Et il va falloir que ce fameux pivot de la Fed se rapproche de nous. Or, lorsque vous regardez les toutes dernières probabilités implicites d'action de la Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, le pivot de la Fed n'est plus attendu avant le 12 juin, hein, alors qu'il y a deux semaines, c'était le 20 mars, et encore, dans une probabilité, ma foi, à peine au-dessus de 50%. Venons-en maintenant au sujet de la vidéo, après 13 minutes de blabla. Le dollar américain est proche d'un choix technique décisif pour sa tendance de fond, et donc là, je vais être précis en vous expliquant un peu toutes les hypothèses possibles et imaginables dans mon esprit, dans ma petite tête. Alors, les hypothèses graphiques sont nombreuses pour la tendance court terme du dollar américain, mais si j'estime que la vue sur plusieurs mois est à présent baissière, moi j'estime que d'ici la fin de l'année, voilà, mon scénario, et c'est que le mien, mon scénario d'ici la fin de l'année, je vous le rappelle ici, donc à gauche vous avez un graphique du dollar américain, enfin sa planète de devise en données mensuelles, à droite en données journalières, et je vais bientôt passer ici en données de valeur. Mon scénario, c'est ça. C'est que d'ici la fin de l'année, on sera sous 100 points. On va casser cette zone. Ça, c'est ce que je vis. Maintenant, mon incertitude à court terme, c'est quoi? Cette vague B, là, que je trimballe à droite à gauche. Attendez, on va zoomer. On va se mettre en hebdomadaire. Cette vague B, là, que je trimballe de droite à gauche, soit elle est déjà finie, là. Et nous serions donc déjà dans une vague C. Et là, donc, on aurait fait la 1 de la C. Nous ferions la 2. Et ben, il faut s'arrêter maintenant pour commencer la 3 de la C. Ou la vague B, en fait, serait encore en construction. Sachant que, je vous rappelle, que dans une structure en zigzag, les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. Les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. Les sous-vagues, c'est 5, 3, 5. C'est-à-dire, 5 ici, on les a, et 3, est-ce qu'on arrive à avoir... En allant dans les sous-vagues, peut-être qu'on en trouve trois ici, mais là, finalement, on se dit qu'il y en a une, deux, et on verra bien une troisième. Et donc, ce serait un scénario baissier reporté dans le temps. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire à nouveau une vidéo cette semaine sur le DXY? C'est parce que le choix entre ça ou ça, qui, à la fin de l'année, a la même conséquence, mais dont le cœur de l'année n'est pas du tout pareil, eh bien, pour moi, il va être fait là, prochainement, très prochainement, parce que nous sommes sur une zone, un intervalle que j'identifie comme frontière. Donc, je vais venir en journalier pour être plus précis, mais ce sont donc les deux scénarios qui s'opposent. Donc, je ne sais pas si la vague B est terminée. Si oui, alors le marché serait en train de construire la vague C, vous l'avez compris, il serait dans le deuxième temps de la C. 5-3-5 pour un zigzag. L'enjeu qui se pose sur le plan fractal est donc de déterminer si la vague B est terminée ou pas. Si la B est terminée, alors le marché serait en train de construire la 2 de la C, ce qui serait le scénario le plus baissier des deux hypothèses. Mais si la B est toujours en construction, alors le dollar pourrait rebondir davantage, ce qui ramènerait l'euro-dollar à 1,05 minimum, avant de voir l'euro-dollar rebondir, et donc le DXY repartir au sud. Rappelez-vous, la corrélation inversée entre les deux. Fondamentalement, on ne trouve pas de raison pour le moment de voir vraiment le dollar reculer. Mais je vais expliquer que les ventes au détail et la production industrielle avaient un peu jeté le trouble. Je suis allé retourner comme chaque semaine, voir la mise à jour, la voie des rapports, du positionnement institutionnel sur le dollar américain à travers le rapport Commitment of Traders sur l'euro-dollar qui est ici à droite. Et au stade actuel, nous avons toujours une baisse de la position nette sur l'euro-dollar. Après avoir fait une sorte de pullback sur ce qui peut être ici une épaule tête-épaule, les positions short augmentent. Les données ici remontent à mardi dernier. Attention, pas mardi 20 février, mardi 13. Donc, il y a un écart. Mais il n'y avait pas à ce moment-là de quoi se dire que la hausse du dollar allait s'arrêter. Donc en fait, en gros, maintenant que je vous ai expliqué le truc de fond, est-ce que la B ou pas est terminée ? Alors, si la vague B est vraiment terminée ici et qu'on a commencé la C, on aurait déjà fait la 1 de la C ici, en orange, la 1 de la C. Nous serions en train de faire une 2 de C, sachant qu'une vague 2 peut retracer entre, regardez comme c'est magique, entre 61,8 et 76,6 de retracement, 78,6. Donc ça redonne cet intervalle. Donc c'est encore possible de se dire qu'on pourrait avoir ça. Une 1-2R, encore possible. Mais bon, ça fait quand même... De toute façon, pour valider ce scénario qui sera le plus baissier, mes amis, il faut casser un support. Il ne faut pas se triturer la tête avec des retracements, des machins, des trucs. Il faut repéter une zone de support. Et pour moi, la zone à réenforcer, pour valider le scénario baissier, il faut que le dollar US recasse les 103 points. Si les 103 points sont enfoncés, cela aussi induit une re-rupture des moyennes mobiles à 50 et 200 jours, en particulier à 200 jours qui est très suivi par les institutionnels. Et là, oui, c'est sûr, on est en C et on ira au gouffre. C'est-à-dire que l'euro-dollar rebondira fermement. Mais pour le moment, c'est toujours en attente d'un signal. Donc tant que cette zone support tient, nous sommes en reprise. Et si on dépasse ce tampon-là, cela vient supprimer cette hypothèse, laissant en fait l'autre hypothèse d'une vague B encore en construction, elle-même en trois temps, en A, B et C, C2B, qui nous ramène plus haut. Donc voilà, c'est la... Et je pense qu'on va être fixé en fonction du comportement des prix vis-à-vis de cette zone. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'euro-dollar, avant que j'en vienne maintenant ensuite à quelques stratégies que je trouve sympathiques sur le plan technique. Sur l'euro-dollar, finalement, c'est plus ou moins le même raisonnement à l'envers, mais moi, je vous donne mon scénario favori. Mon scénario favori, qui serait celui toujours, en fait, d'une tendance haussière qui peut se développer davantage, mais pas à court terme. C'est-à-dire que, dans l'immédiat, je pense que le marché, ici, a fait sa première jambe de hausse. Ensuite, a baissé une vague 2. Alors, une 2 qui pourrait d'ailleurs correspondre à un expanded flat, qui d'ailleurs s'inscrirait bien là dans la construction graphique de l'euro-dollar. Ici, hein, expanded flat, nous aurions démarré une 3 et nous serions dans la 2 de la 3. Et celle-là peut effectivement retracer davantage. Moi, j'aurais tendance à avoir ce scénario-là sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que un repli qui peut aller jusqu'à 1,0630, 1,0635 avant de repartir. Mais, dans l'hypothèse dont je vous parlais tout à l'heure, qui verrait une vague B non terminée et pouvant aller chercher jusqu'à ce niveau-là des 108 points, là, dans ce cas, ça veut dire que l'eurodoll pourrait revenir d'abord tester 1,05 avant de repartir. Donc, en gros, Les hypothèses sont soit celle-là, qui a ma préférence, hein, mais bon, il suffit qu'elle ait ma préférence pour que ça marche pas, et l'autre qui n'a pas ma préférence, c'est celle-là. Dans tous les cas, vous avez deux niveaux pivots. 1,0635. Séparant donc ces deux possibilités. Je dirais que dans un souci de prudence, pour repasser à l'achat, mieux vaut attendre le franchissement d'une résistance tangible sur l'euro-dollar. Et donc, cette résistance tangible, je pense que c'est cette conjonction, entre les moyennes mobiles à 200 et 50 jours. Et il faudrait voir, comme d'ailleurs on a régulièrement eu, un refranchissement de la 200 jours pour redéclencher quelque chose de bullish sur l'euro-dollar. Et donc, inversement, recasser la moyenne mobile à 200 jours représenterait un signal bearish sur le cours du dollar américain face à un panier de devises. Quelques stratégies FX COMO en vrac, JPY-USD, XPD-USD, XPT-USD et gaz naturel qui me semblent être des supports techniques qui sont intéressants dans l'immédiat. Et merci bien sûr pour vos likes. Alors, tout d'abord, merci pour vos likes, merci aussi de vous abonner. C'est vrai que ça nous soutient, hein. C'est qu'un clic pour vous, et puis nous, ça nous fait monter. Enfin voilà, c'est. Alors, j'en parle mille fois, j'en parle trop, bien sûr. Je vais peut-être me faire sortir d'heure. Hein. Mais je me dis quand même, allez, je voulais vous montrer un petit graphique de long terme. Moi, j'adore les graphiques de long terme. Bon, alors je sais, j'en parle beaucoup du gain. Donc, c'est la stratégie de vendre du SDN. Effectivement, ça reste faible là. Encore une fois, c'est une stratégie que je déploie sur l'ensemble de l'année. Donc on fera les comptes en décembre. Nous ferons les comptes en décembre. Mais regardez ce graphique du JPY-USD. Alors, il est vrai qu'il y a eu des déclarations de. Le gouvernement japonais serait prêt, la Banque centrale du Japon, pardon, à intervenir à tout moment. Ils ne sont pas non plus hyper pressés ou millimétrés, mais ils commencent à taper du poing sur la table. La faiblesse du yen les stresse. Historiquement, au mensuel, systématiquement et à proximité de cette zone de support, à chaque fois qu'on a eu une divergence entre le prix et le RSI, c'était le point bas. Et là, nous retrouvons cette configuration-là. Donc je me dis qu'on est en zone de point bas, on est en zone de bottom. Donc pour moi, ok, je n'ai pas encore le timing du point de départ du rebond. Il n'y a pas le signal encore qui a été donné. Mais on est dans une zone d'attrait de long terme. Ça, je continue de le penser sur le JPY-USD. Naturellement, que briser ça, bon, ce serait invalidé, mais l'invalidation serait ici, on va dire. Mais bon, jusqu'à cette zone-là, je tiendrai ensuite, ok. Mais là, franchement, cette divergence me semble tellement cas d'école, récurrence du passé. Bon. Alors, dans deux, trois petites choses aussi intéressantes que je notais sur le plan technique, mais ça, en fait, ce que vous voulez, hein. Je relève cette zone intéressante sur le palladium. Voilà, grosse zone de long terme. Grosse zone de long terme, encore une fois, on parle d'un truc de 30 ans, on est dessus. Ça commence gentiment à diverger. Et encore une fois, c'est pareil. Moi, j'identifie des gros supports comme ça pour interrompre des tendances baissières. La meilleure après, la meilleure des sécurités, c'est d'attendre un franchissement de résistance. Mais, voilà, je pense que là, elle est quand même belle, cette div. Je serais pas surpris qu'on commence à avoir un retour, en cas l'interruption de cette tendance baissière sur le palladium. Sur le cours du platine, c'est pas pareil, mais vous avez une solide fondation ici, un solide support entre les 830 et les 860. Bon, c'est pas aussi costaud sur le long terme, il n'y a pas de divergence, mais c'est pas une tendance baissière comme l'est le palladium. Et on a cette grosse zone de support horizontal, voilà, qui me semblait intéressant de relever. Et alors là, bon, le gaz naturel, alors, le gaz naturel, pour toutes les raisons que nous savons, il est mis sous pression. Alors là, c'est très différent de ce que je viens de vous proposer, par exemple, sur le JPY-USD, ou le palladium, ou même le platine. Je veux simplement vous montrer que le marché teste un méga gros seuil. Et là, je suis sur le contrat futur. Donc, à partir de là, enfoncer cette zone, c'est l'effondrement. Là, ça vaut le coup d'attendre quand même un signal au moins donné hebdomadaire, sachant qu'on est sur cette zone. Pour l'instant, ça ne vient pas. Il suffirait d'avoir, comme ici, un avalement haussier hebdo, ou comme ici, une structure en ligne de contre-attaque pour valider quelque chose et valider un bottom. En tout cas, voilà sur quoi on est. Mais ça vaut le coup d'attendre une semaine avec un signal positif pour derrière jouer un rebond comme ça et comme ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, et si au contraire on fait une rouge et qu'on casse, cette tendance baissière peut tout à fait se prolonger ici. Voilà, chers amis, bah écoutez, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Et passez une super semaine et à très vite. Salut.